Alors, nous avons la joie d'accueillir Catherine Fontaine qui va se présenter en deux mots sans doute. Donc, merci de faire silence pour pouvoir accueillir son enseignement.
Bonjour à tous. Donc, je suis Catherine Fontaine. Ça fait plus de 30 ans que je suis paroissienne à Notre-Dame des Victoires. Je suis juste une paroissienne, donc je ne suis pas une théologienne. On m'a demandé au cours de ces précédentes années d'accompagner les couples, les jeunes fiancés à la préparation au mariage. Et c'est suite à cette préparation qu'aujourd'hui on m'a demandé de parler avec vous de la communication et plus particulièrement de la communication dans le couple et dans les familles. Donc pour aborder ce thème aujourd'hui de la communication dans le couple et dans les familles, j'essaierai de répondre à deux grandes questions. Enfin, la première question, c'est pourquoi communiquer? Et la deuxième question, c'est comment bien communiquer? Par rapport à cette première question de pourquoi communiquer, il me semble important tout d'abord de souligner le lien très étroit qui existe entre la communication, l'altérité et la communion. La communication permet d'accueillir l'altérité et elle permet ensuite d'entrer en communion avec les autres. Pourquoi l'homme communique ? Il me semble que la communication est profondément inscrite dans la nature humaine. Elle est inscrite tout d'abord dans la nature humaine en tant que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, or nous avons un Dieu, ou nous croyons en un Dieu qui est un Dieu unique, mais qui est aussi un Dieu trinitaire. Donc, l'homme étant créé à l'image de Dieu et Dieu étant un Dieu trinitaire, au niveau de notre Dieu, il existe une communication qui est une communication d'amour, qui est même plus qu'une communication d'amour, qui est une communion d'amour. Et comme on est créé à l'image de Dieu, on est invité à nous aussi entrer en communion avec les autres hommes, à rentrer en communion avec Dieu, pour que ce soit une communion d'amour. L'autre élément de notre nature, c'est qu'on est créé en tant que fils ou enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, on est amené à rentrer en communication aussi avec Dieu. Dieu ne cesse de chercher la communication avec l'homme. Dieu ne cesse d'appeler l'homme à rentrer en communication avec lui. Il y a une parole déjà dès le Deutéronome où Dieu dit « Écoute Israël ». Et donc quand on rentre en communication avec Dieu, c'est aussi pour nous le moyen de trouver notre vraie vocation. Dieu communique avec l'homme pour transmettre à l'homme aussi le chemin du salut. Donc, il est vital que l'homme rentre en communication avec Dieu. Donc, la communication fait partie de notre relation avec Dieu. Je pourrais dire que l'homme naît du dialogue avec Dieu. Il existe par et pour ce dialogue avec Dieu. Quand Dieu nous parle, Dieu nous crée en même temps. Donc, ça, c'est la deuxième dimension. La communication, elle est inscrite dans notre nature parce qu'on est enfant de Dieu. La troisième dimension aussi de la communication et du pourquoi on communique, c'est que par nature, Dieu a voulu l'homme dans l'altérité. Et donc, comme il a voulu l'homme dans l'altérité, l'homme a besoin de communiquer. L'homme a besoin de rentrer en communication, puisque la communication avec l'autre va lui permettre de devenir lui-même, va lui permettre d'exister. La communication avec l'autre me fait grandir, parce que je ne suis pas tout. Il y a un autre à côté de moi qui me complète. Donc j'ai besoin de rentrer en communication. Enfin, la communication, elle permet un enrichissement mutuel. Mais la communication, elle ne me fait pas que grandir. La communication avec l'autre, elle me permet aussi d'édifier un nous. La communication avec l'autre, elle me permet de dépasser mes peurs, elle me permet d'envisager de construire quelque chose avec l'autre, elle me permet de faire grandir aussi le monde. Si je reprends donc ces différentes dimensions, hein, je communique, c'est inscrit dans la nature humaine parce que je suis à l'image de Dieu et que lui-même, Dieu, est en communion. Enfin, je suis aussi en communication parce que je suis créée fils de Dieu et que Dieu communique avec ses enfants. Enfin, je suis aussi en communication parce que je suis née dans l'altérité. Il ne faut pas perdre dans ces trois dimensions que la communication, elle doit être un véhicule de l'amour et que la communication, elle va être aussi le reflet de l'amour que je porte à l'autre. La communication, elle est donc vitale. Mais la communication, je viens de le dire, elle peut être le reflet de la qualité de l'amour que je porte à l'autre. Donc la question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce que je communique correctement? Il ne faut pas perdre de vue aussi que la communication, elle peut être parfois... elle peut parfois être blessante, que la parole que je dis peut être parfois aussi une parole qui peut tuer l'autre, notamment quand c'est une parole accusatoire. Donc il est absolument fondamental, si on veut que notre communication soit une communication qui soit dans l'accueil de l'altérité, qui soit une vraie communion, de se poser la deuxième question, deuxième grande question, non pas pourquoi je communique, mais la deuxième question, comment je fais pour bien communiquer? Pour bien communiquer, il me semble essentiel d'entrer dans une logique donc, d'amour, dans une logique de don, dans une logique d'accueil, comme Dieu l'est à l'égard de l'homme. On peut également, enfin, dans ce cadre-là, puisque c'est la neuvaine de Louis et Zélie Martin, évoquer la communication enfin, qui existait aussi au sein du couple Martin. Louis et Zélie ont toujours été très proches l'un de l'autre. Zélie a été un pilier pour Louis. Louis a été un pilier pour Zélie. Ils ont toujours échangé sur les petites choses du quotidien comme sur les grandes choses de leur vie. Ils ont toujours été dans le respect du silence de l'autre, dans le respect de l'espace personnel de chacun. Mais ce qu'il y a de plus important dans leur communication, il me semble, c'est qu'ils se sont très souvent dit l'un à l'autre qu'ils s'aimaient. Et donc c'est une communication qui leur a vraiment permis d'être en communion. Enfin, une communion réciproque qui a été en même temps enfin, une communion enfin, remplie entre guillemets de la communion enfin, qu'ils avaient l'un et l'autre avec le Seigneur. Et donc si on part de cet exemple du couple Martin, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il faut se raccrocher aussi au Seigneur, puisque quand le Seigneur parle, la parole du Seigneur est une parole qui crée, mais qui est aussi une parole qui sauve. Et donc il faut se poser la question, quand moi je rentre en communication, quand je parle à quelqu'un, dans quelle mesure ma parole permet à l'autre d'exister, dans quelle mesure ma parole crée, dans quelle mesure ma parole peut sauver l'autre, parce que ma parole peut aussi tuer. Donc pour que ma parole soit une parole qui fasse grandir, pour que ma parole soit une parole qui sauve, il me semble essentiel, avant toute communication importante, de faire appel à l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous éclairer sur la façon de bien communiquer avec l'autre, de confier donc cette communication à l'Esprit Saint, à l'exemple de ce qu'a fait d'ailleurs le Christ. À chaque fois qu'il avait quelque chose d'important à faire, il se retirait avant pour prier et donc pour trouver le mot juste. Alors là, je reste dans quelque chose qui est peut-être très abstrait, mais plus concrètement, comment peut-on faire pour rentrer dans cette logique d'accueil, dans cette logique d'amour, dans cette logique d'une communication qui crée, d'une communication qui sauve? Il me semble qu'il y a des petits conseils que l'on trouve assez facilement, hein, simples et relativement faciles à mettre en pratique. Le premier point qui permet de communiquer, il me semble, relativement, de façon positive, le premier point, c'est de chercher à comprendre l'autre avant chercher à être soi-même compris. Ce qui suppose deux attitudes importantes. La première attitude qui me semble importante, c'est de se taire et d'écouter. Si je me tais et que j'écoute, ça me permet d'éviter de déformer la pensée de l'autre. Ça me permet d'éviter de poser le filtre de ma propre pensée sur ce que dit l'autre pour pouvoir mieux accueillir ce que l'autre a à me dire. La deuxième attitude qui découle de cette première attitude, c'est d'opérer un changement de point de vue, d'essayer de se mettre mentalement dans ce que pense l'autre. Dans ce cadre-là, je suis capable d'accueillir l'autre et j'admets surtout la légitimité de ce qu'il a à me dire. L'autre, le point de vue de l'autre compte autant que mon point de vue. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, il compte autant que le mien. Donc c'est important d'essayer. Je pense de prendre la place de l'autre pour pouvoir accueillir cette légitimité. C'est particulièrement vrai, je crois, dans le cadre de la famille, dans le cadre de la vie de couple. Hein. Mon conjoint, mes enfants ont besoin tout d'abord de se sentir entendus, écoutés, pour pouvoir à leur tour entendre et écouter. Donc le premier conseil, je crois, c'est prendre le temps d'écouter l'autre, prendre le temps de recevoir l'autre. Une fois qu'on a fait cet effort de prendre le temps d'écouter l'autre, de recevoir l'autre, un deuxième point qui me semble essentiel dans comment bien communiquer, c'est d'être capable de dire ce que l'on pense et d'être capable de se montrer tel que l'on est. Pourquoi c'est important de dire ce que l'on pense? Parce que mon conjoint, mes enfants, enfin, les membres de ma famille ne savent pas forcément ce que je pense. Et s'ils ne savent pas ce que je pense, je peux être très frustrée en me disant bah, « c'est évident, ils savent ce que je pense, donc, ou ils n'ont qu'à deviner ». Mais ce n'est pas toujours évident de deviner ce que l'autre pense. Donc il faut avoir la simplicité aussi de dire ce que l'on pense. Dans la communication du couple, et à l'exemple de Louis et Zélie Martin, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que la communication est le moyen de progresser dans la compréhension réciproque, et tout ça en ayant le souci de ne jamais blesser l'autre, ou en tout cas en ayant le souci d'essayer de ne pas blesser l'autre, parce que jamais c'est peut-être trop compliqué, mais en tout cas en ayant le souci d'essayer de ne pas blesser l'autre. Pour cela, il faut être aussi attentif à ce que vit l'autre, il faut être attentif au sens des mots que l'on utilise, il faut être capable de recevoir l'autre, mais aussi de se recevoir de lui, et de ne pas perdre de vue qu'on est des êtres finis, donc on ne peut pas tout faire, et donc on a besoin de l'autre, ce qui suppose aussi d'être dans une attitude d'humilité par rapport à l'autre. L'autre peut me faire grandir, l'autre peut me faire avancer, l'autre peut me faire découvrir qui je suis en profondeur. Dans le couple, la communication est aussi un véhicule, hein, je l'ai déjà dit, mais la communication est un véhicule de l'amour que je porte à l'autre. Donc il faut que, pour être bien reçu et pour ne pas être déçu, il faut aussi, et ça c'est peut-être le dernier point sur lequel je voudrais insister, il faut aussi s'assurer de la façon dont l'autre communique. Dans la communication, vous avez peut-être déjà entendu parler de Gary Chapman et de ses modes de communication. On dit qu'il y a 5 grands modes de communication dans le couple, dans la famille et plus largement entre les individus. On peut communiquer grâce à des paroles, on peut communiquer grâce à des moments de qualité, on peut communiquer grâce à des cadeaux, on peut communiquer grâce à des services rendus. On peut communiquer aussi grâce à des gestes. C'est important de discerner, notamment dans la famille, avec vos plus proches, la façon dont chacun a envie de communiquer. Si pour vous, l'essentiel de la communication passe avant tout par des paroles valorisantes, mais que votre conjoint, lui, est dans l'attente de gestes d'affection, vous pouvez vous user, entre guillemets, dans votre communication, parce que vous serez toujours à côté de la plaque. Ce qu'il attend, c'est un geste, et vous, vous êtes dans la parole. Inversement, si vous attendez que votre conjoint vous fasse des cadeaux, mais que votre conjoint est dans une parole valorisante, vous pouvez attendre longtemps que votre conjoint vous fasse des cadeaux et penser que votre conjoint ne communique pas bien avec vous. Donc il est important aussi de discerner le mode de communication de chacun pour ne pas être à côté de la plaque et pour que la communication puisse toucher l'autre comme elle doit le toucher. Donc bien discerner quel est le mode de communication. De la même façon, alors ça, je ne suis pas une psychologue et je ne suis pas suffisamment spécialisée pour parler de cela, mais dans la communication et pour que le message puisse être transmis correctement, ne pas perdre de vue non plus que nous sommes créés dans l'altérité, notamment hommes et femmes, donc nous sommes d'une même nature, mais nous sommes différents, et que donc les hommes et les femmes ne communiquent pas toujours de la même façon. Et ça aussi, dans la famille et dans le couple, c'est important d'avoir à l'esprit que les hommes n'ont pas forcément exactement les mêmes besoins que les femmes ou que les femmes n'ont pas forcément exactement les mêmes besoins que les hommes. Et ça, c'est important de respecter l'identité propre de chacun. La communication, hein, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle puisse à chacun, ou puisqu'elle puisse permettre à chacun de grandir, doit aussi être basée sur des moments privilégiés. Il faut, dans le cadre de la famille, il me semble, arriver à trouver des moments où on se pose, des moments où on puisse se retrouver, ce que l'on appelle parfois le devoir de s'asseoir. Le devoir de s'asseoir permet à chacun, notamment quand il y a des choses fondamentales à transmettre, d'être dans l'accueil. Puisque quand on trouve un moment pour se retrouver, on est déjà dans l'attitude où on est prêt à accueillir l'autre. Donc ce devoir de s'asseoir suppose un minimum de volonté. Mais c'est une volonté qui permet à chacun de pouvoir dire ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui et d'être accueilli par l'autre, de partager ce qui est de beau aujourd'hui, de partager ce qui est plus difficile aujourd'hui, de partager les points de tension sans qu'on soit dans l'agressivité, sans qu'on soit dans la tension. Donc ça permet de maîtriser aussi les paroles que l'on a à dire ou les gestes que l'on a à poser à l'égard de l'autre. Bon, mais c'est quelque chose qui doit se décider. Donc une bonne communication nécessite de l'humilité, nécessite de l'ouverture, nécessite aussi de la volonté. Je conclurai en rappelant donc ce lien très étroit qui existe, il me semble, entre la communication, l'altérité, la communication. C'est grâce à l'acceptation de l'altérité, l'autre n'est pas moi, je ne suis pas l'autre, mais l'autre a autant de valeur que moi et j'ai autant de valeur que l'autre, donc je suis dans l'acceptation de cette altérité, que la communication peut devenir constructive et qu'elle peut être source de communion. Et quand la communion est présente, l'altérité est beaucoup plus facile à accueillir et donc là, on peut communiquer de façon constructive. Il existe donc la possibilité d'un cercle, je dirais, d'un cercle vertueux entre communication, altérité, communion. Enfin, une bonne communication basée sur l'altérité et le fait de recevoir l'altérité me permet de rentrer en communion, enfin, communion avec l'autre, communion avec Dieu. Il faut savoir donc écouter, savoir faire silence. Une bonne communication n'est pas toujours simple. Une bonne communication s'apprend. Enfin, on peut progresser dans la communication. Enfin, la période de l'été arrive. C'est souvent une période où on a un petit peu plus de temps. C'est souvent une période où on est un petit peu moins stressé. C'est peut-être une période que l'on peut utiliser justement pour essayer de progresser dans la communication. Enfin, n'hésitons pas donc à demander l'aide du Seigneur. N'hésitons pas à nous mettre à l'école de Marie, à l'école de Louis et Zélie Martin. Qu'à l'exemple de ce couple et grâce à leur à la sainte communion qui existait entre ce couple, nous sachions faire de nos familles des véritables écoles d'humanité qui permettent à chacun au sein de nos familles d'accomplir sa vocation profonde, d'être ce qu'il est. Et ça me semble d'autant plus important qu'une bonne communication peut alors découler sur la fécondité. Si on communique correctement, on peut alors bâtir, on peut alors construire ensemble, on peut alors porter des fruits ensemble, on peut alors devenir fécond. Donc les différents thèmes qui sont abordés cette semaine sont tous imbriqués les uns dans les autres, mais c'est évident que la communication est quelque chose qui est central. Alors, je ne sais pas si vous avez la prière de Louis et Zélie Martin. Je ne sais pas si vous avez la prière des couples à portée de la main, mais éventuellement, donc je vous propose de relire avec vous cette prière, même si vous ne l'avez pas avec vous. Que nous demandions à Louis et Zélie Martin de nous apprendre à communiquer comme ils ont su le faire. Et donc pour cela, je me permets de lire cette prière. Louis et Zélie Martin, vous qui dans votre vie de couple et de parents avez donné le témoignage d'une vie chrétienne exemplaire par l'exercice de votre devoir d'État et la pratique des vertus évangéliques, nous nous tournons vers vous aujourd'hui. Que l'exemple de votre confiance inébranlable en Dieu et de votre abandon constant à sa volonté, à travers les joies mais aussi les épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée, nous encourage à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et l'espérance chrétienne. Intercédez pour nous auprès du Père, pour que nous obtenions les grâces dont nous avons tant besoin aujourd'hui dans notre vie terrestre et que nous parvenions, comme vous, à la béatitude éternelle. Nous prions spécialement pour tous les couples, mais également plus généralement pour toutes les vocations. Amen. Merci pour votre écoute.